Alors Adin, donc salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc bienvenue sur les ondes de Pasta FM 99.4, l'émission La Prophétie. Il est 20h passé de 30 minutes, on est ensemble sur là jusqu'à 22h. Donc je vous rappelle que l'émission La Prophétie, l'émission qui vous est proposée par l'association Rencontre et Dialogue, l'association Rencontre et Dialogue que vous pouvez joindre à la maison des associations Boulevard de la Liberté à Roubaix. Donc on est comme tous les vendredis avec nous ce soir un certain nombre d'invités que je vais m'empresser de présenter. Juste pour vous dire qu'il y a toujours il y a aussi Ahmed Mikhtar, puisque tous les 15 jours vous savez que c'est Ahmed Mikhtar qui intervient. Il est là dans les locaux, il est un petit peu, on l'a mis sur le côté, non pas par irrespect, mais c'est tout simplement pour laisser la place à nos invités. Mais vous pouvez toujours appeler sur les ondes au 03 27 13 59 00 pour intervenir dans le débat de ce soir que je vais vous présenter, mais aussi si vous avez des questions à l'accoutumée sur des questions de l'ordre du culte ou enfin des questions d'une manière générale, vous pouvez toujours les poser hors antenne, et Ahmed est là avec nous jusqu'à 21h30 et il s'empressera de vous répondre, Inch'Allah. Donc avec nous trois invités que je m'empresse de présenter avec d'abord Taïeb Chouiref. J'espère ne pas écorcher le nom. Voilà, donc en tant qu'écrivain et traducteur, ainsi que deux membres de l'association Tasnim basée sur l'île, donc Faisal Znati, président de l'association, ainsi que Omar Ahmed Ouchi, qui fait partie de l'association Tasnim. Alors en fait, ce soir, notre émission va tourner autour d'un grand personnage, donc l'imam Al-Razali, illustre savant de l'islam, qu'on va bien sûr présenter en profondeur. En fait, il y a un film qui a été établi sur ce personnage, qui va être diffusé ici sur la métropole. Donc je vais donner toutes ces informations. Le film intitulé El Razali, l'alchimiste du bonheur, c'est un film de Ovidio Salazar, et il va être diffusé donc au Kinociné à Lille 3, à Pont-de-Bois. Donc c'est l'université Lille 3 à Pont-de-Bois. Ce sera mardi 19 juin à 20h30. Donc bien sûr une diffusion du film et un débat à l'issue de la diffusion. Mm-hmm, voilà. Il y a une participation symbolique de 5 € qui vous sera demandée. Toute information et réservation au 03 20 41 61 43. J'aurai l'occasion de rappeler ces références, mais vous pouvez toujours appeler ici sur les ondes pour avoir toutes ces informations. Donc, sans plus tarder, avec Taïeb Chouaref, donc salam alaikum, bienvenue sur le plateau. J'ai présenté en tant qu'écrivain et traducteur, puisque vous avez traduit deux ouvrages de Al-Razali.
C'est ça, tout à fait.
Kitab, enfin je vais le dire en français, le livre sur la science et le livre sur la patience.
C'est bien ça.
Et parmi, bien sûr, un certain nombre de livres que Al-Razali a écrit, mais première question déjà de Candide, Al-Razali, on va faire une brève biographie. Mm-hmm. On sait que c'est un grand savant de l'islam, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus, malheureusement.
Voilà, alors, Abu Hamid Al-Razali, donc ce grand savant du 11e siècle de notre ère, est une des plus grandes figures de la spiritualité musulmane. On sait qu'il a reçu le titre de Hujjatul Islam, la preuve de l'islam. Et donc cet homme a vécu donc il y a presque 1000 ans maintenant, il est né en 1058 à Tous, dans une région qui correspond aujourd'hui à l'Iran. Mm-hmm. Et puis il a passé une grande partie de sa vie donc à Bagdad, où il a donc enseigné, où il a été formé. Et cet homme finalement, dans tout le parcours de sa vie, a été, on pourrait dire, représentatif de ce qu'est le parcours spirituel en islam. Alors son œuvre est véritablement immense en arabe. Son œuvre maîtresse, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, c'est Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences de la religion. Pourquoi est-ce que je disais qu'il est vraiment représentatif de ce que peut être un parcours spirituel en islam? Eh bien, c'est parce que il a d'abord passé une première partie de sa vie, disons, de son enfance jusqu'à l'âge mature, jusqu'à 36-37 ans, à essayer de comprendre l'islam, essayer d'assimiler les enseignements du Coran, du Hadith, de la théologie, des grands ulama de son époque, de ceux qui l'ont précédé aussi. Et cet effort de compréhension a abouti à une prise de conscience chez lui. Il a pris conscience que l'effort intellectuel pour comprendre ne suffit pas. Il faut aussi réaliser intérieurement. Il faut aussi, à partir de l'étude des textes, à partir de l'étude des œuvres intellectuelles, pouvoir vivre dans son cœur la réalité de la foi. Et cette prise de conscience qu'il a eue a abouti à une crise intérieure, une crise spirituelle majeure qu'il a vécue, où il s'est demandé finalement quelle est la réalité de ma foi, quelle est la réalité de mon lien à Dieu, qu'est-ce que je vis réellement dans mon lien à Dieu. Et il s'est rendu compte que la plus grande partie de son savoir n'était que livresque, de la simple érudition. Et il a donc cherché le moyen pour passer de l'érudition à la réalisation intérieure, au fait de goûter dans son cœur la douceur de la foi, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait « halawat al-iman », la foi goûtée. Et on aura évidemment l'occasion de revenir sur cette démarche. Quand il a trouvé la voie vers Dieu, eh bien, il a compris qu'il était capable maintenant d'enseigner réellement. Alors c'est un peu paradoxal parce que avant même qu'il ait cette prise de conscience, avant même qu'il ait pris conscience que le savoir livresque ne suffit pas, il était déjà enseignant. Mmh. Il a été nommé en 1091 à la Nizamiya, qui était la plus grande université islamique de sa région à l'époque. Et il enseignait à des groupes d'étudiants qui pouvaient dépasser parfois les 300 ou les 400. Et les gens venaient de très très loin pour écouter ses leçons. Il avait une célébrité qui s'était étendue dans tout le monde arabo-musulman. Mais cette célébrité n'empêchait pas qu'il ressentait dans son cœur donc ce manque spirituel, ce manque de spiritualité, et il a abandonné donc pour un certain temps l'enseignement pour se retrouver lui-même, pour retrouver sa foi, retrouver son lien à son Seigneur, et puis en quelques années plus tard, disons après son départ, il a pris conscience que maintenant il pouvait revenir. Il pouvait retourner à l'enseignement par ce qu'il a réalisé, par ce qu'il a goûté intérieurement, et pouvoir réellement nourrir les gens. Et c'est pour ça qu'il a appelé son œuvre maîtresse Ihya ul-Din, revivification des sciences de la religion. De la même manière qu'il avait revivifié la foi en lui, qu'il était passé de l'ivresque à vécu, eh bien, il pensait qu'il pouvait aider les gens aussi à ne pas rester à ce simple premier niveau, à dépasser ce niveau.
Donc si j'ai bien compris, les sciences telles qu'elles étaient enseignées et connues de l'époque, elles étaient globalement purement, comme vous avez dit, livresques, sans fond, enfin c'est le sentiment qu'il avait, ou bien c'était aussi partagé par l'ensemble de ses contemporains, on savait beaucoup de choses, mais on n'appliquait pas forcément comme il fallait, de façon sincère.
Voilà, disons qu'en fait, c'est pas seulement lié à son époque, disons que c'est une réalité de la nature humaine, disons que ce qu'on peut comprendre simplement par le mental, ce qu'on peut comprendre simplement par la réflexion, eh bien, ça n'a pas toujours l'impact suffisant pour transformer le cœur. Vous connaissez le très beau hadith du prophète qui dit « Il y a une partie en l'homme qui, lorsqu'elle est pure, tout l'homme est pur, et lorsqu'elle est impure, tout l'homme est impur, et cette partie, c'est le cœur. » Donc, il faut que le cœur soit touché par les enseignements spirituels. Si ça en reste simplement au cerveau, disons, donc c'est ce que j'appelle l'étude livresque, eh bien, fatalement, il manque la dimension la plus importante. Et alors, effectivement, Razali, ce qu'il a remarqué sur lui, il l'avait remarqué aussi sur ses contemporains et ceux qui l'ont précédé. Parce que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont appris très simplement avec le prophète, dans la vie de tous les jours, par son exemple vivant. Il n'y avait pas évidemment de cours organisés, il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas d'examen au bout. Donc il y avait la foi vécue au jour le jour avec le prophète. Et puis ensuite, évidemment, il a fallu quand même organiser un enseignement, parce qu'une société doit tout de même s'organiser. Et cet enseignement organisé, qui est effectivement nécessaire, eh bien crée en même temps les conditions, des conditions défavorables, hein, à la spiritualité. C'est-à-dire que même si c'est nécessaire, il ne faut pas en rester là. Et ce que Razali remarquait, c'est que des générations entières d'étudiants apprenaient, se spécialisaient plus pour l'amour de la polémique, l'amour du fait d'avoir raison, pour pouvoir battre son adversaire intellectuel, plutôt que pour trouver la vérité. Il remarquait que chez bon nombre de savants et comme chez bon nombre d'étudiants, la discussion n'avait pas pour but de trouver ensemble le vrai, mais simplement d'imposer son avis, de montrer qu'on en est le plus fort, le plus érudit, le plus connaissant, qu'on a plus de ilm, hein, comme l'on dit. Et tout cela, effectivement, est bien éloigné de la véritable spiritualité. Voyez. Alors, c'est cela qui a éveillé Razali à cette prise de conscience. Et dans son Ihya al-Muddin, donc dans le premier chapitre, que j'ai traduit sous le titre « Le livre de la science », eh bien, met en garde le lecteur contre des études seulement livresques. Son grand conseil, c'est de dire, avant de s'enfoncer dans des études théologiques trop poussées, eh bien, il faut simplement apprendre ce qu'on appelle al-fard, l'obligatoire, ce qui concerne chaque musulman.
Le minimum, le simique islamique, comme on dit.
On pourrait dire cela. Ensuite, il faut pratiquer. Une fois qu'on a appris le minimum de connaissances nécessaires, il faut pratiquer. Il faut donc essayer de réaliser les choses. Et Razali dit, quand on a réalisé, quand on a goûté à la foi, à la douceur de la foi et à la réalité de la foi, eh bien pourquoi pas se spécialiser. On pourra se spécialiser, un tel dans le fiqh, dans la jurisprudence, un tel dans les fatwas, un tel dans ilm al-kalam, un tel dans ilm al-tawahid, hein, dans les différentes sciences, je veux dire. Bon, très bien, mais pas avant d'avoir goûté. Parce qu'il dit, nécessairement, si on se spécialise avant d'avoir goûté à cette douceur de la foi, eh bien, cela fait naître dans le cœur de l'homme l'hypocrisie. Parce qu'un des grands enseignements de Razali, qui est aussi de toute façon un des grands enseignements du prophète lui-même, c'est que si l'âme n'est pas purifiée, si les tendances négatives de l'âme ne sont pas purifiées, eh bien, ça n'est pas la vérité pure et désintéressée que l'homme recherche, c'est plutôt son intérêt. Et c'est très dangereux quand on est ambitieux et qu'on poursuit son propre intérêt, c'est très dangereux de prendre pour prétexte ou pour alibi la religion. Parce que là, on se fait du tort à soi-même, on fait du tort aux autres aussi. Et c'est en ce sens-là que Razali met en garde en disant non, ne vous spécialisez pas dans des études trop poussées sans avoir essayé de réfléchir, de méditer sur la sincérité.
D'un côté, c'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas forcément on n'est pas forcément obligé d'être un érudit pour s'approcher
d'Allah. Exactement, tout à fait.
Mais d'un autre côté, on dit souvent que, je veux dire, c'est par le biais de la science qu'on s'approche aussi de d'Allah, je veux
tout
dire,
fait,
pour éviter de faire. Donc, il faut trouver un équilibre dans tout ça.
Exactement.
Alors, on n'est pas obligé de spécialiser, mais n'empêche que, au plus on en apprend, au plus on affermit notre foi et au plus on affermit aussi notre sincérité, me semble-t-il.
Alors justement, ça n'est pas toujours le cas. Disons que vous connaissez certainement ce hadith qui dit « Al-ilmu ilman ». Il y a deux types de connaissances. « Ilmun ala al-lisan », une connaissance qui n'est que de l'ordre du discours, c'est ce que j'appelle là, la science livresque. « Ilmun fil qalb », une connaissance du cœur. Et dans ce hadith, le prophète dit « علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم Cela est une preuve contre le fils d'Adam, le tout le savoir, l'ivresse que l'on accumule. وَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ فَذَلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعِ. La science du cœur, c'est celle-là la science bénéfique, science utile. Alors, ce hadith est très très important pour comprendre ce qu'est la spiritualité musulmane, parce que cette science du cœur dont nous parle ici le prophète, et que Razali décrit vraiment de manière très très large dans son Ihya, qui est de toute façon une œuvre immense, hein, qui a plusieurs milliers de pages en arabe. Finalement, on pourrait dire que tout le but de l'Ihya al-Muddin, la revivification qu'opère Razali, c'est d'expliquer comment on passe de la science du discours, ce qu'on peut donc apprendre dans des cours, hein, tout simplement, à la science du cœur. Et c'est par la... Alors, quand on parle de la science du cœur, oui, plus on en apprend, plus on en connaît, plus effectivement on peut se rapprocher du Seigneur. Et cela, si vous voulez, finalement, ça a été une prise de conscience très forte chez Razali, parce que évidemment, il connaissait ce hadith, il l'avait entendu, il avait entendu des ulamas le commenter, mais il n'en avait pas vu la profondeur. Et ça, je crois que ça peut nous arriver à nous tous, hein, dans nos vies, que on a déjà entendu tel verset ou tel hadith, et puis un jour, notre cœur s'ouvre et la signification du verset nous frappe, ou la signification du hadith nous marque. Et à ce moment-là, on se dit, ah tiens, oui, je n'avais encore jamais entendu ce verset, ou je n'avais encore jamais entendu ce hadith. Parce que c'est comme ça, l'homme, en fait, apprend progressivement, et on est tous logés à la même enseigne, hein, on apprend tous progressivement, et c'est très progressivement que la réalité de l'islam s'ouvre à nous. Une des grandes erreurs que l'on voit malheureusement parfois se répandre aujourd'hui, c'est de croire que finalement l'islam c'est quelque chose de très simple, il suffit de mettre en pratique comme il faut, il suffit d'éviter tout ce qui est faux, et si je fais tout ce qui est vrai, enfin entre guillemets tout ça, eh bien je suis directement en pleine vérité. Eh bien non, c'est pas si facile que ça. Disons que l'évolution intérieure, c'est dans toute la vie qu'il faut la vivre. Et un verset devrait nous faire réfléchir, c'est le verset dans lequel donc Dieu dit au prophète lui-même, donc qui était le modèle par excellence, waqul rabbi zidni ilman, et dit Seigneur, fais-moi grandir en connaissance, en science. Alors, je crois que ça c'est très important et c'est très présent dans le message de Razali. Encore une fois, ce verset waqul rabbi zidni ilman, je crois que Razali est un merveilleux exemple de mise en pratique de ce verset. Parce que même si les gens venant de les quatre coins du monde musulman lui disaient « Vous êtes vraiment le plus grand savant de notre époque, vous êtes vraiment la plus grande lumière présente aujourd'hui », eh bien, elle s'est dit non. Peut-être qu'il y a une part de l'islam qui m'échappe. Et cette humilité, cette sincérité, c'est ça qui a permis d'être Razali. Et c'est ça qui fait que 1000 ans après, on parle encore de lui, finalement.
Et alors, dans ce cheminement, à partir du moment où il a pris conscience, effectivement, que toute la connaissance et tout le savoir qu'il avait en tête, mais un peu moins peut-être dans le cœur, qu'est-ce qui s'est passé ? Subitement, il a rompu avec son travail d'enseignant et il a rompu avec sa notoriété ou
voilà, tout à fait. Alors si vous voulez, donc il explique très bien dans son autobiographie qui s'appelle Al Munqid min ad-Dalal, traduit en français sous le titre Erreur et délivrance, il explique très bien donc tout son cheminement. Et il dit donc que quand il a pris conscience donc de cela, il s'est rendu compte que pour atteindre cette sincérité, eh bien, il lui fallait prendre du recul par rapport à sa célébrité, par rapport à la gloire, par rapport donc aux éloges qu'il pouvait recevoir. Et effectivement, il a abandonné donc son poste d'enseignant à la Nizamiya. Et puis, il est rentré en retraite, hein, en i'tikaf, on pourrait dire, en retraite spirituelle. Et comme il savait évidemment que les gens ne le laisseraient pas partir, qu'il était trop important et trop utile aux gens de son temps, il a fait en sorte de partir vraiment incognito, sans dire où il allait. Alors aujourd'hui, simplement, on sait que il est passé, disons, à Jérusalem. Il est resté un certain temps à Damas aussi. On ne sait pas exactement où, mais on sait qu'il a quitté donc toute relation sociale pendant 2 ans.
Ça on dit long sur la force qu'il faut avoir derrière, parce qu'avoir une certaine notoriété et comme ça, presque du jour au lendemain, se rendre compte qu'effectivement on était dans l'erreur et l'admettre.
Tout à fait.
C'est un petit endroit que je voulais, parce exactement, que ça m'interpelle particulièrement.
Exactement.
Donc, sa retraite spirituelle pendant 10 ans, 11 oui. ans, 12 ans, enfin, je sais pas.
Alors, en fait, ça a duré moins longtemps, sa retraite spirituelle. On pense qu'elle a duré 2 ou 3 ans, mais il est revenu à l'enseignement seulement 10 ans après.
D'accord.
Effectivement.
Mmh.
Alors, il est revenu à l'enseignement, donc à la Nirvamiya de Bagdad, en ayant. En étant poussé, disons, par ses contemporains à reprendre son poste, parce qu'on lui a dit que vraiment la communauté a besoin de toi, elle a besoin que tu transmettes de ta sagesse et de ta connaissance. Et donc il a effectivement accepté, donc sur la fin de sa vie, de reprendre son enseignement, bien que lui préférait, écrire, terminer son œuvre écrite. Alors, ce qui est intéressant aussi dans la vie de Razali, c'est que il a un frère qui s'appelle Ahmed al-Razali, qui était lui-même aussi un homme d'une grande spiritualité et qui avait conscience, lui, très tôt, dès son enfance d'ailleurs, que le savoir livresque est insuffisant et que la véritable foi ne se découvre pas dans les livres, hein, mais dans le lien vécu avec Dieu. Et il l'a vu, donc, son frère Abu Hamid, donc notre Razali, hein. Mm-hmm. Il a vu donc son frère s'enfoncer dans les études d'année en année, et puis de temps en temps il essayait de lui faire prendre conscience que c'était pas forcément la meilleure voie pour lui et qu'il ne fallait pas négliger la spiritualité. Mm-hmm. Et Razali, lui, avait besoin, je crois, d'aller jusqu'au bout de son parcours pour pouvoir se rendre compte, hein, qu'il fallait suivre un autre chemin. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de ce chemin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Razali, finalement, a été mis en garde sur l'insuffisance de son cheminement par son frère pendant des années. Et ça n'a pas suffi. Il a fallu une prise de conscience. Il a fallu que lui-même se rende compte effectivement que la célébrité lui plaît intérieurement, qu'elle séduit quelque chose en lui. Hein, il y a une part de séduction, disons, hein, dans la célébrité. Et ça, même si donc quelqu'un nous conseille, même si quelqu'un nous dit, écoute, c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, on se rend bien compte que la guider, eh bien finalement, elle dépend pas de ceux qui sont autour de nous. Hein, c'est vraiment un don divin. C'est quelque chose qui nous vient de Dieu et qui nous met donc sur la voie droite.
Et on va s'opérer une courte pause, on va revenir sur la suite de la biographie de Razali. 5 minutes, Faïssa, tu peux lancer, Charles. Mm-hmm. T'es sur les ondes de Passe FM, donc on est sur le thème ce soir d'un grand personnage emblématique de civilisation islamique, l'imam al-Razali. Donc avec nous Tayeb Chouiref, qui est écrivain et traducteur, puisque vous avez traduit deux ouvrages du grand ouvrage Revivification, j'espère l'avoir bien dit, des sciences de la religion, donc de l'imam Razali. On y reviendra sur les traditions. On avait abordé sa biographie, donc grande notoriété vers plus de l'âge de 30-35 ans, j'ai retenu, crise intérieure, on s'est rendu compte que la connaissance livresque ne suffisait pas à s'approcher de Dieu, il fallait un cheminement intérieur, et donc là il y a une retraite qui se fait, une retraite spirituelle plus d'autres une démarche plus à même sur cette construction de l'intérieur. Et donc là, il revient. Bon, il y a l'ouvrage qu'on va revenir sur la revivification des sciences de la religion. À l'issue de ces 10 ans de retour avec à l'enseignement, mais après cette retraite spirituelle, qu'est-ce qui a changé et comment après, la nouvelle vie, si je puis dire, de ce grand imam Al-Razali.
Oui, alors, ce qu'on peut préciser, c'est que avant de se retirer donc de la vie publique et de la célébrité, il a longtemps hésité. Parce qu'évidemment, on peut comprendre que c'est pas facile d'abandonner son œuvre extérieure, surtout qu'évidemment, autour de lui, comme on l'a dit, beaucoup de gens lui disaient qu'il était absolument indispensable à la communauté. Il a longtemps hésité, et c'est un signe, finalement, un signe de Dieu, qui l'a amené à faire le grand choix. C'est-à-dire que vers la fin, donc quelques mois avant son retrait, il a perdu l'usage de la parole. Mmh. Il ne pouvait plus prononcer un seul mot. Et quand il se rendait donc à la madrasa Nizamiya, donc à l'université Nizamiya pour enseigner, eh bien plus un son sortait de sa bouche. Et comme certains spécialistes ont pu le faire remarquer, pour un homme comme Razali, le fait de ne plus pouvoir parler, eh bien c'est perdre finalement tout ce qui fait sa notoriété, sa grandeur, sa célébrité, c'est perdre finalement son outil qui l'a amené à la célébrité. Et donc il a compris qu'effectivement, bon là, il y a un signe qui lui montrait qu'effectivement, il doit partir, il doit donc mettre fin à son enseignement. Et alors, quand on dit retraite spirituelle, qu'est-ce qu'on entend par là? D'abord, il faut savoir que le prophète lui-même a pratiqué la retraite spirituelle dans la grotte de Hira. On sait donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est préparé, disons, spirituellement et sans vraiment savoir à quoi, mais en fait il s'est préparé à recevoir la révélation par la retraite lui aussi. Le fait donc de se couper de la vie de la Mecque et de l'ambiance commerciale mais aussi polythéiste, disons, qui était présente à la Mecque, ça a eu pour conséquence qu'il est devenu capable de recevoir la parole de Dieu. Et puis, quand il a lui-même pu transmettre son message et qu'il a été suivi par un très grand nombre de gens de son époque, il a institué ce qu'on appelle i'tikaf, la retraite spirituelle des 10 derniers jours de la fin du mois de Ramadan. Et ces deux exemples montrent bien que la retraite spirituelle a une grande place dans la vie intérieure. Alors évidemment, chez Razali, il a pris cette forme particulière. Mais évidemment, il n'est pas nécessaire que tout le monde quitte son travail et puis parte en retraite. C'est quelque chose qui lui était particulier. Par contre, ce qui est tout à fait souhaitable, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir des moments de solitude avec Dieu, des moments où on se retrouve intérieurement, des moments que l'on consacre donc à la méditation, à la lecture du Coran et au zikr surtout. Donc le zikr, donc c'est l'invocation de Dieu qui peut prendre plusieurs formes. On y reviendra après. Finalement, cette retraite de Razali, elle est aussi une revivification de la pratique du prophète lui-même. Alors, dans cette retraite, Razali a essentiellement pratiqué donc le zikr. Vous savez qu'il y a de très nombreux versets donc, dans le Coran qui invitent à la pratique du zikr, à l'invocation. Certains versets recommandent donc d'avoir un temps d'invocation le matin et le soir. Et puis, surtout, beaucoup de versets indiquent sur le fait que l'invocation doit être abondante. doit être conséquente, c'est-à-dire il ne suffit pas de répéter trois fois la ilaha illallah pour avoir pratiqué le dhikr. Il faut vraiment consacrer un temps à ça. Et Ghazali, lui, donc, a ressenti le besoin intérieur de vivre toute sa journée en i'tikaf, en retraite, dans la lecture du Coran, dans l'invocation de Dieu. Et c'est cela qui l'a transformé intérieurement. J'ai cité donc tout à l'heure le hadith qui parle des deux types de connaissances, connaissance simplement de la langue et connaissance du cœur. Il y a un verset très important du Coran, c'est le verset 28 de la surat Ar-Ra'd, qui est la 13e surat, dans lequel Allah dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub, n'est-ce pas par l'invocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. Et voilà, donc cet apaisement du cœur ou cette revivification du cœur, eh bien, on peut dire que c'est ce que Ghazali a vécu. Il a vécu une véritable transformation intérieure. Et dans son autobiographie, il nous décrit cette transformation. Il nous dit comment les choses ont changé pour lui. Si vous voulez, c'est un peu comme une renaissance spirituelle. Et c'est cette renaissance intérieure qui a fait que, finalement, ce qu'il savait déjà, tout le savoir qu'il avait accumulé, a pu être assimilé. Vous voyez, il est passé de l'accumulation à l'assimilation par le dhikr, par donc l'invocation.
Justement, toute la démarche de spiritualité et de le fait de se rappeler de façon importante, bon, en français, on décrit souvent par ce qu'on appelle le soufisme. Est-ce qu'on peut rapidement dire un certain nombre de choses sur parce qu'on a entendu beaucoup de choses et son contraire, et souvent on associe le soufisme comme étant une démarche qui est contraire à l'islam, contraire à la charia, une démarche excessive qui amène plus à l'égarement qu'à se rapprocher de Dieu. Donc sans vouloir, parce que je pense que le thème il est extrêmement important, on va pas régler le problème en quelques minutes, mais juste pour rappeler un petit peu ensemble des auditeurs ce qu'on appelle par soufisme, cette quête comme ça de la spiritualité pour s'approcher, et non pas s'éloigner, mais pour s'approcher d'Allah
subhanahu wa ta'ala. Bien, vous savez donc que un jour, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, tout habillé de blanc, s'est approché de lui, et puis il s'est assis en face de lui, genou contre genou, et les sahaba, les compagnons, étaient donc autour de lui, et on trouvait cet étranger différent d'eux. Et cet étranger a posé trois questions. Qu'est-ce que l'islam ? Puis il a posé la question, qu'est-ce que l'iman ? Qu'est-ce que la foi ? Et puis enfin, il a posé la question, qu'est-ce que l'ihsan ? Qu'est-ce que l'excellence spirituelle ? Et à chaque fois, donc, le prophète a répondu, hein, ce hadith est très connu, donc, qu'est-ce que l'islam ? Eh bien, il a répondu par les cinq piliers. Qu'est-ce que l'iman ? Le prophète a répondu donc par les grands éléments du dhomme, qu'il faut croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés. Hein. Et puis, à la question qu'est-ce que l'ihsan ? Qu'est-ce que la vertu spirituelle ? Le prophète a répondu, c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, pourtant, te voit. Et donc, cet étranger est reparti. Et le prophète a demandé aux compagnons, savez-vous qui est venu ? Les gens ont dit, là, il y a Rasulullah. Non, nous ne savons pas. Et il a dit, c'est l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qui est venu pour vous enseigner votre religion. Et donc, en posant donc ces trois questions, il a éclairci les trois degrés de la religion, les trois degrés de Ad-Din. Donc les trois degrés sont Al-Islam, Al-Iman et Al-Ihsan. Et finalement, donc, on peut dire que ce qui a été appelé par la suite le Tasawwuf, bon, c'est une dénomination comme une autre, c'est finalement Maqam Al-Ihsan, c'est donc réaliser Al-Ihsan. Vous savez que c'est pas parce qu'on est au niveau de l'islam qu'on est forcément dans l'iman. Et parce que c'est hiérarchique. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'on est dans l'iman qu'on est dans l'ihsan. Donc les trois degrés sont vraiment hiérarchiques, et l'ihsan, on comprend que c'est le couronnement vraiment de toute la démarche intérieure. Et quand on regarde la définition qu'a donnée le prophète de l'ihsan, il a dit d'adorer Dieu comme si tu le voyais. Ça veut dire vivre dans sa présence, comme si on était toujours, comme si on avait toujours Dieu en face de nous. Vivre donc finalement dans le rappel constant, sans jamais être dans l'oubli. Mmh. Alors, quand on entend cela, on se dit oui, mais il faut bien que l'on travaille, il faut bien que l'on pense à autre chose, il faut bien qu'on règle des petits problèmes de la vie de tous les jours, il faut bien donc que notre esprit soit distrait, on ne peut pas toujours être en présence. Eh bien, oui et non, parce que ceux qui ont eu la grâce, parce que c'est effectivement une grâce, de vivre le cheminement jusqu'au bout, comme Al-Ghazali par exemple, mais aussi comme certains des Sahaba, eh bien ils ont vécu une transformation intérieure qui fait que la vie de tous les jours n'est pas un éloignement de Dieu pour eux. Ils peuvent accomplir leur responsabilité et leur devoir tout en étant en présence avec Dieu. Hein, il y a un très beau verset dans le Coran qui dit « Il est des hommes que ni les commerces ni le négoce ne détournent de l'invocation de Dieu. » C'est-à-dire qu'effectivement, tout en étant dans leur responsabilité de travail, le cœur reste présent avec Dieu. Les mains sont occupées à travailler et l'esprit, le cerveau est occupé à réfléchir. Mais le cœur est indépendant de la réflexion. Et du cerveau. Et pour vivre donc dans cette présence continue, il faut évidemment avoir vécu ce que Razeli a cherché à vivre. Et quand il a vécu donc sa retraite spirituelle, il a vécu cette transformation intérieure qui l'a amené à vivre al-ihsan. Et c'est ça finalement le tasawwuf. Mm-hmm. Alors j'aimerais lire ce que lui-même dit de sa retraite et comment il a vécu intérieurement sa retraite. Il nous dit « Je suis resté en retraite 10 ans. J'ai eu durant cette période le dévoilement de choses innombrables. Il me suffira de déclarer que les soufis cheminent dans la voie qui mène à Dieu, le Très-Haut. Leur chemin est le meilleur des chemins et leur voie la meilleure des voies. Ils se comportent de la manière la plus pure. » Leurs actions comme leur repos, intérieurement comme extérieurement, sont tirées de la source de la lumière prophétique. Il n'y a point d'autre lumière à la surface de la terre pour s'éclairer. Alors, qu'est-ce que nous dit ici Razali? D'abord, il nous dit qu'il a eu le dévoilement de choses innombrables. Que veut dire dévoilement? En arabe, keshf. Le dévoilement, c'est quand la réalité d'une chose s'ouvre à nous. C'est-à-dire que, dans notre vie, tous les jours, comme je disais tout à l'heure, on peut entendre des versets, des hadiths, et puis passer à côté. Et puis tout à coup, un jour, on est vraiment touché et le sens nous apparaît. Et bien ça, on peut appeler ça un dévoilement. Alors, d'un certain niveau, évidemment, mais tout de même. Alors, voilà, disons qu'en gros, ce que nous dit Razali de sa retraite, c'est qu'elle l'a transformé. Il n'était plus le même avant et après. Mmh. Et cette transformation intérieure, eh bien, qu'a cherché à vivre Razali, et que ce que l'on a appelé par la suite les soufis ont vécu. Mais c'est rien d'autre que la voix donc des Sahaba, finalement.
Comme il est précisé dans la lumière de la tradition prophétique.
Tout à fait.
Donc on a bien cerné l'avant. Crise mystique, si je puis dire, enfin je sais pas comment je vais le dire, et l'après il y a le grand ouvrage, donc revivification des sciences de la religion, donc il y a revivification.
Exactement.
Il y avait des choses, des sciences de la religion, et là il a redonné peut-être une touche, enfin me semble-t-il, une touche suite à sa découverte en termes de spiritualité. Mm-hmm. On va s'attarder là-dessus, ça donnera l'occasion aussi de présenter les deux traductions que vous avez faites, et après on va revenir, puisque le temps défile quand même, on va revenir au film qui est consacré donc à ce grand personnage Al-Razali, pour d'un point de vue plus contemporain, je veux dire, ce que ça nous apporte dans notre modernité. On y reviendra. Mais donc pour le grand ouvrage, Revivification des sciences de religion.
Alors donc, effectivement, le titre est très parlant. Donc en arabe, Ihya, rendre la vie. Alors cet ouvrage est vraiment un ouvrage immense. Il est composé de 40 livres. Qui constituent 4 grandes parties. Les 10 premiers livres constituent Al-Ibadat, les actes d'adoration. Mm-hmm. Donc. Ensuite, Al-Adat, les comportements sociaux et quotidiens, etc. Ensuite, Al-Muhlikat, les défauts de l'âme. et enfin Al-Munjiyat, les vertus qui sauvent. Et donc dans ces 40 livres, il a voulu rendre explicite tout ce qui était implicite, non seulement dans l'enseignement du prophète, mais aussi dans l'enseignement des premiers grands sages de l'islam. Bon, des hommes spirituels, il y en a eu avant Al-Ghazali. Mais avant Ghazali, personne n'a écrit une œuvre, un traité aussi volumineux. Si vous voulez, ça ne se faisait pas. Mm-hmm. C'était pas dans les pratiques. On écrivait toujours de manière concise et résumée. En se disant, de toute façon, celui qui a le cœur sensible, eh bien, il va comprendre lui-même et il va développer lui-même. Mm-hmm. Donc ce qui existait avant Ghazali, ce sont des traités, mais toujours très courts. Et Ghazali s'est rendu compte que, par rapport aux problèmes qu'il a rencontrés à son époque et par rapport à la diminution de la sensibilité spirituelle des gens, eh bien, c'était plus suffisant. Il faut pas se contenter de dire les choses de manière implicite, il faut vraiment les dire de manière explicite, mm-hmm. et détaillée. Il faut tout détailler si on veut que les gens comprennent. Hein, c'est un peu, finalement, mm-hmm. Son message. Et, alors, cet ouvrage commence par un premier chapitre qui s'appelle Kitab al-Ilm, le livre de la science. C'est le plus long chapitre de son œuvre. Pourquoi il a commencé par le livre de la science? Eh bien, pour dire aux gens, avant de chercher à connaître l'islam et sa spiritualité, il faudrait d'abord s'entendre sur ce qu'on appelle connaissance. Qu'est-ce que connaître? Quand est-ce qu'on peut dire, ah voilà, je connais, j'ai compris? Eh bien, il faut des clés, il faut des repères pour cela. Et il se propose donc de les donner dans ce long chapitre. Entre autres, il explique des choses très importantes. Il dit que beaucoup de gens n'ont pas conscience que la connaissance spirituelle est du domaine du cœur. Beaucoup de gens n'ont pas conscience que c'est le cœur qui est capable de saisir les réalités spirituelles et non pas le cerveau. Et donc, il a consacré un chapitre dans ce livre de la science pour pouvoir aider les gens à comprendre tous les versets qui parlent du cœur. Vous savez qu'il y a beaucoup de versets dans le Coran, notamment un verset qui dit « Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais les cœurs qui sont aveugles ». Eh bien, et c'est pour ça qu'il m'a semblé d'abord, dans un tout premier temps, important de traduire ce livre-là, mmh. de manière à ce que le lecteur francophone puisse avoir accès à des définitions précises de ce qu'est la connaissance et de ce qu'est la science religieuse. Et puis ensuite, quand on acquiert ces clés-là, eh bien, il est possible de pouvoir s'intéresser à tous les autres domaines de la religion. Pouvoir comprendre, par exemple, ce qu'est la patience, ce qu'est la gratitude, ce qu'est la générosité, ce qu'est la sincérité.
Mmh, c'est l'éthique du
l'éthique, exactement. Et c'est pour cela que parmi tous les chapitres éthiques, on pourrait dire, de l'Ihya, j'ai choisi de traduire le livre de la patience, Kitab al-Sabr, parce que il m'a semblé que quand on essaye donc de changer intérieurement, quand on essaye de se parfaire, quand on essaye de perdre ses mauvais comportements pour passer à un bon comportement, un des gros obstacles, c'est souvent le manque de patience. Parce qu'on se dit, oui, j'essaye, mais je n'y arrive pas, donc je baisse les bras. Or, en spiritualité, tout vient avec le temps. Même pour les meilleurs cas spirituels, on voit qu'ils ont passé de longues années à faire des efforts intérieurs avant que ça porte des fruits. Et aujourd'hui, nous qui vivons dans un monde où tout va vite et où on veut tout de suite, je crois qu'une des choses les plus étrangères à la mentalité moderne, c'est la patience. Mmh. La patience au sens spirituel. Parce que bon, c'est comme ça, on vit dans un monde où effectivement tout va de plus en plus vite et où on a la culture de la productivité, où il faut être efficace. Et ce qui est sur le long terme est souvent mis de côté. Alors quand on veut construire sa spiritualité, je crois qu'il faut vraiment comprendre ce qu'est la patience. Alors, évidemment, il y a d'autres choses intéressantes dans l'Ihya, mais déjà, ces deux exemples-là, je crois qu'ils nous donnent vraiment un aperçu important de son enseignement.
Inch'Allah, on aura l'occasion de découvrir d'autres traductions, puisque je pense qu'il n'existe pas de traduction de l'intégralité.
Non.
Je sais que j'avais déjà rencontré le livre sur l'amour, me semble-t-il.
Voilà, tout à fait.
Mais j'en ai pas vu, j'ai pas vu d'autres. Enfin, je n'ai pas prétention de connaître tout ce qui existe, mais.
Voilà, il y en a quelques-uns d'autres qui ont été traduits. Mais disons que non, la globalité, il faudra attendre encore, je crois, de très nombreuses années, parce que de toute façon, c'est un travail forcément qui doit être partagé. Un seul homme ne peut pas tout traduire.
Bien entendu. Maintenant, pour revenir donner un clin d'œil sur l'intérêt qu'on peut avoir de s'attarder sur ces grandes vertus développées par et notamment la biographie de Razali sur notre monde et dans notre modernité, puisque la quête spirituelle, la recherche, l'accomplissement et l'action dans la spiritualité, souvent c'est antinomique de modernité. Donc, en quoi ça peut nous apporter beaucoup de choses. On l'a vu par exemple pour le thème de la patience qui paraîtrait être en complète contradiction avec le déroulement même de la vie qui est autour de nous, la rapidité, la course dans je ne sais quoi, des richesses peut-être, en quoi ça peut nous apporter des grands éléments. Ce sera l'occasion de voir, d'après la biographie de Razali, de le voir en image et de poursuivre le débat. Je rappelle qu'il y a une diffusion d'un livre, un film documentaire, mais presque. Il y a une partie acteur et une partie commentaire de spécialistes.
Pour
savoir plus, il faut y aller. Alors, je vais donner l'information. Il y a une diffusion du film El Razali, l'alchimiste du bonheur, qui sera diffusé mardi 19 juin à 20h30 à Villeneuve-d'Ascq. C'est au Kino Ciné, c'est à l'université Lille 3 à Pont-de-Bois. Donc ce sera l'occasion de découvrir en image ce grand personnage et de pouvoir poursuivre le débat de ce soir. Et pour cela, on a deux personnes de l'association Tasnim de Lille, Faisal Zinati, président de cette association, ainsi qu'Omar Ahmed Douchi. Un petit mot sur cette association, c'est l'occasion aussi de faire connaître à l'ensemble des auditeurs de la métropole les associations qui travaillent dans le coin.
Alors, donc les éditions Tasnim ont été créées en octobre 2006, sous une forme associative, 2000, loi 1901. Et le principal objectif de cette association, c'est de mettre à disposition du public francophone des ouvrages culturel, intellectuel, spirituel, appartenant au patrimoine de l'islam. Alors, dans cette perspective, donc, nous avons sollicité des personnes qui avaient une connaissance profonde de l'islam. Donc, nous avons sollicité Taïb Chouiref, et nous allons traduire ses œuvres, et nous allons probablement solliciter d'autres personnes pour réaliser cet objectif. Alors, concernant l'organisation précise donc des éditions Tasnim, c'est mon ami Omar Ahmadouchi qui s'occupe de ça.
D'accord.
Qui va dire quelques mots.
Assalamu alaikum.
Comme ça, Mohamed.
Effectivement, pour pouvoir mettre à disposition, en tout cas du public francophone, d'œuvres spirituelles, ou alors qui font connaître, on va dire, la spiritualité en général. Et celle de l'islam en particulier. On a déjà cette chance d'avoir rencontré ce film de Razali. Et donc avec Ovidio Salazar, on a réussi à le convaincre de faire une version française, parce qu'en réalité, le film a d'abord été réalisé pour un public anglais, anglophone plutôt.
Oui, j'ai pas présenté Ovidio Salazar, donc c'est celui qui a constitué le film. Deux petits mots sur...
Voilà. Alors, Ovidio Salazar, qui est le réalisateur du film, vit en Angleterre, à Londres. Il est d'origine, en fait, sud-américaine. Et, en fait, il a pris la décision de réaliser ce film sur El Razali, dans sa quête personnelle, en fait, de vérité. Et quand il a découvert le personnage de Razali et son parcours, en quelque sorte, il s'est identifié à Razali, parce qu'il il trouvait qu'il était lui-même, dans sa recherche de vérité, confronté, évidemment sans égaler El Razali, mais en tout cas de manière analogique, il a trouvé qu'il rencontrait des difficultés dans le monde moderne qui est le nôtre, auquel El Razali lui-même a été confronté d'une manière différente il y a plus de 1000 ans maintenant. Et donc en fait, c'est à partir de cette recherche qu'il a lui-même voulu rendre, on va dire, de faire connaître le parcours de Al-Ghazali. Et quand nous avons rencontré Ovidio Salazar, nous avons demandé s'il était possible de faire une version française de ce film, parce qu'on trouvait ça dommage que le public francophone en soit privé, et donc le public français en premier chef. Mm-hmm. Et donc en fait, effectivement, pour faire nous-mêmes connaître ce film, nous sommes proposés d'être l'éditeur de la version française, et pour le faire connaître, on organise des projections. Donc on a déjà commencé il y a à peu près un peu moins d'un an à faire des projections à Paris, notamment à Lille. Mm-hmm. Et celle de mardi, donc mardi soir, 19, c'est la seconde projection qu'on fera au kino.
D'accord.
Voilà.
Donc c'est la seconde projection qui est faite dans la métropole. Si j'ai bien compris, diffuser un certain nombre d'ouvrages ou de documentaires, quoi. Ça, c'est pas forcément livresque, mais ça peut être aussi sous forme de DVD, hein, c'est une vidéo, sur la spiritualité de manière générale, donc pas exclusivement sur la spiritualité musulmane.
Tout à fait, mais évidemment, en tout cas en l'occurrence pour le DVD Al-Ghazali.
Mmh, ouais, c'est une spécificité, voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet sur le fait de s'y attarder sur la spiritualité. On l'a bien compris par rapport à la biographie de Razali. Ce sera l'occasion de le voir à travers les écrans. Mais par rapport au monde moderne, moi j'aimerais bien aborder c'est souvent contradictoire, je l'ai dit tout à l'heure, en quoi c'est très important. Et c'est vrai que dans la plupart des personnes, et moi le premier, on essaye de savoir, de comprendre déjà, d'avoir ce SMIC, comme on a dit tout à l'heure, le minimum à connaître sur l'islam, mais parfois c'est vide de sens, ça reste une gestuelle, ça reste une pratique qu'on fait, et on se rend compte qu'il manque quelque chose, ça c'est indéniable. Mais dans un monde qui est moderne, on a du mal à mettre toute la place de la spiritualité dans ce monde-là.
Tout à fait. Alors je crois que un des grands messages des porte-paroles de la sagesse en islam, c'est de dire aussi que l'obstacle premier à la spiritualité, ce ne sont pas tellement les conditions extérieures, c'est surtout notre attitude intérieure. C'est-à-dire que finalement, ce qui nous retient vers le bas, ce qui nous empêche de nous élever intérieurement, c'est pas tellement que les conditions ne s'y prêtent pas à l'extérieur, c'est que nous, intérieurement, nous vivons mal les conditions extérieures. Mmh. Alors, évidemment, des fois, il y a des conditions extérieures qui amplifient nos difficultés intérieures. Il y a des conditions extérieures qui peuvent aggraver notre trouble intérieur. Mmh. Mais il n'empêche que le véritable voile, il est toujours à l'intérieur. Et ça, c'est très important, parce que il ne suffit pas de critiquer l'époque dans laquelle on vit pour se dédouaner, disons, de notre état, de l'état dans lequel on se trouve. Et ça, c'est vraiment un message important, à savoir que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, si on s'améliore intérieurement, eh bien déjà, les difficultés extérieures nous paraîtront différentes. Et puis dans un second temps, on pourra même apporter notre propre contribution pour faire évoluer les choses à l'extérieur. Mmh. Et ça, c'est aussi un des messages de la vie de Razali. C'est que avant sa retraite, évidemment, il faisait le constat qu'à son époque, beaucoup de choses n'allaient pas du tout. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est beaucoup de choses qu'on retrouve nous aujourd'hui. Par exemple, à son époque, il y a eu la progression d'un certain fanatisme qui allait jusqu'au meurtre. Et dans le film, on voit bien que Razali a été donc confronté à des sectataires qui n'hésitaient pas donc à assassiner pour faire valoir leurs idées. Nizam al-Mulk, c'était donc le vizir qui a remarqué Razali, qui lui a demandé d'enseigner à l'université de la Nizamiya. Ce fameux Nizam al-Mulk a été assassiné, par exemple, hein, par des gens qui estimaient que leur manière de voir la religion était meilleure. Et que du coup, il fallait le supprimer pour faire régner leurs idées. Et ce fanatisme, donc là, Razali, évidemment, l'a condamné dans ses écrits, mais sans pouvoir réellement faire évoluer les choses. Par contre, quand lui, il s'est amélioré intérieurement, quand il a changé intérieurement, eh bien cette transformation intérieure l'a aidé à pouvoir influer sur l'extérieur. Autant avant la retraite, il ne faisait que dénoncer ce qui ne va pas, autant après la retraite, il pouvait construire et reconstruire. Et ça, je crois que c'est un message très fort pour nous aujourd'hui, qui trop souvent passons notre temps à faire la liste de ce qui ne va pas, et n'avons pas conscience que finalement, si je me réforme moi-même intérieurement, sans même que je le veuille, je suis déjà en train d'aider à une réforme extérieure. Hein, et c'est le sens du fameux verset qui dit Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Hein, voilà. Donc c'est d'abord le changement intérieur qui est absolument nécessaire pour changer les choses à l'extérieur. Alors ça, c'est un message, je crois, qu'il faut dire, redire et dire encore, parce que beaucoup trop de nos contemporains s'épuisent littéralement à vouloir faire évoluer les choses alors que rien ne change. Ils gaspillent même toute leur énergie à essayer de construire quelque chose, mais ce quelque chose n'est qu'un château de cartes finalement, parce qu'ils n'ont pas construit à l'intérieur, en eux-mêmes.
Donc, d'après le verset, ils veulent se substituer à l'action d'Allah qui, lui, change les choses.
Tout à fait.
Avant de changer. Bon, voilà. À travers ce genre d'émission, on a maintes fois, d'ailleurs, c'est le but même de ce genre d'émission, d'apporter des clés, justement, pour pouvoir faire cette réforme, déjà d'apprendre sur sa propre religion, d'avoir ce minimum, et après de pouvoir encore cheminer, de progresser pour changer en profondeur de l'intérieur. Je vous propose après une petite courte pause de 5 minutes, de revenir sur des points de vue pratico-pratiques, ce qu'on peut apporter comme élément à la lumière de la biographie de Al-Razali, à la lumière aussi de la tradition prophétique, surtout d'apporter des éléments qui permettent justement ce cheminement intérieur. Je vais juste rappeler avant de lancer la pause qu'on a une diffusion donc de biographie d'Al-Razali intitulée Al-Razali, l'alchimiste du bonheur, un film de Ovidio Salazar. Donc c'est une diffusion qui est j'ai parlé de la station Tesnim de Lille qui va avoir lieu mardi 19 juin à 20h30. Ce sera au Kino Ciné de Lille 3, c'est l'université Lille 3 qui se situe à Villeneuve-d'Ascq à Pont-de-Bois. Une participation symbolique de 5 € vous sera présentée. 03 20 41 61 43, 03 20 41 61 43, c'est le numéro de téléphone si vous voulez être sûr d'être parmi les auditeurs, les spectateurs, le mot manqué. Vous pouvez réserver à l'avance, n'hésitez pas. Le standard de la radio, 03 20 73 59 00, si vous avez des questions ou si vous n'avez pas le temps de noter ces informations, vous pouvez toujours appeler, il n'y a aucun souci. Sur les ondes de Passer la Femme, donc l'émission La Prophétie, on est ensemble Charles jusqu'à 22h. Il est 21h passé de près de 40 minutes, il nous reste une bonne vingtaine de minutes. 03 20 73 59 00, 03 20 73 59 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez appeler, il n'y a aucun souci. Sur le thème de ce soir, donc autour de la biographie de l'imam Razali, en vous rappelant qu'il y a une diffusion d'un film autour de sa vie. Hein, ce sera donc mardi 19 juin à 20h30 à Villeneuve-d'Ascq, au Kino Ciné de l'Université de Lille 3. C'est à Pont-de-Bois, quartier Pont-de-Bois. Une participation symbolique de 5 € sera demandée. À l'issue bien sûr de la diffusion du film, il y a un grand débat autour de la biographie d'Al-Razali. On a vu que ça a apporté un certain nombre d'outils. Je pense que dans le document, apporter des outils pour développer la spiritualité avant de rentrer, non pas pour tout dévoiler, parce qu'il faudrait que les personnes se déplacent pour en savoir plus, mais juste donner quelques éléments. La vidéo, elle existe, hein, aussi sous forme de DVD, donc c'est proposé par l'association Tesnim de Lille. On peut se le procurer où, ce DVD? Et je reviendrai aussi sur le titre qui a été choisi, notamment.
Très bien. Oui, en fait, j'ai effectivement pas terminé de parler de
du DVD, oui.
Alors, donc on organise d'abord des projections suivies de débats pour faire connaître le film. Et puis, comme évidemment c'est un sujet profond qui interpelle, d'où la nécessité finalement de répondre à des questions que suscite le visionnage du film. Et évidemment, comme les projections ne peuvent pas satisfaire tout le monde et tous ceux qui peuvent être intéressés, on a fait produire le DVD de la version française du film. Qui est donc disponible à la vente depuis quelques jours. Il est donc on peut se le procurer d'abord directement chez nous par notre site internet www.tasnim.fr. Et donc on peut le commander directement chez nous, mais de plus en plus il sera disponible Inch'Allah donc dans les librairies.
Vous n'avez pas encore une librairie, vous êtes
On n'est pas livré, on le propose directement aussi pour ceux qui souhaitent nous l'acheter, mais disons qu'on n'est pas libraire. Puis pour terminer sur le site, donc vous pouvez le trouver et le commander à travers tasnim.fr. Et puis par la même occasion, les auditeurs qui nous écoutent pourront aussi visiter d'autres choses sur notre site, parce qu'on publie aussi des articles sur le thème de la spiritualité. Et c'est encore le début évidemment, mais au fur et à mesure nous ferons ça. Et puis nous présenterons aussi un certain nombre d'ouvrages avec quelques notes de lecture et des conseils aussi de lecture. En tout cas, ils peuvent le visiter régulièrement, Inch'Allah.
D'accord, donc on rappelle www.tasnim.fr. Le DVD, donc je l'ai sous les yeux, El Razali, l'alchimiste du bonheur. L'alchimiste du bonheur. Pourquoi déjà ce titre? Je ne sais pas s'il est d'origine, si c'est une traduction du titre qui a été proposé par Ovidio Salazar.
C'est ça, tout à fait. C'est le titre donc proposé par le réalisateur. Et l'alchimiste du bonheur, donc en arabe, Kimia Sa'ada, l'alchimie du bonheur, c'est le titre d'une œuvre de Razali. Hein. C'est un petit traité, assez court, qu'il a écrit pour résumer ce qui avait été traité vraiment en long dans l'Ihya, et qui donc résume les différentes étapes de cette transformation intérieure que l'on peut vivre, donc celui qui passe, on pourrait dire, de la tiédeur à vraiment une foi fervente, à une foi réalisée. Et donc pourquoi alchimie? Parce qu'il y a effectivement des changements intérieurs très forts qui vont arriver. Il y a tout un processus d'évolution intérieure qui est joliment rendu, je pense, par le terme alchimie.
Voilà. Donc pour revenir au film, donc il y a globalement, c'est pas en deux parties, mais c'est en alternance entre deux situations. Il y a un acteur qui joue le rôle de l'imam Razali avec d'autres personnages pour montrer, retranscrire la réalité qui était la sienne. Et d'un autre côté, on a aussi des commentateurs spécialistes.
Voilà, tout à fait. Alors vraiment, Ovidio a voulu que participent à ce film les plus grands spécialistes mondiaux de Al Razali. Vous avez des gens comme Saïd Hassan Nasr, qui est professeur à l'université George Washington. Vous avez T.G. Winter, qui est professeur en Angleterre, à l'université de Cambridge, je crois, de Cambridge. Et puis vous avez aussi Hamza Youssouf, qui est très connu aussi, et qui, lui, enseigne à la Zaytouna aux États-Unis. Et alors donc tous ces gens apportent vraiment un éclairage très important, parce que Ovidio donc nous fait passer des scènes reconstituées, donc vraiment avec le décor de l'époque, avec les vêtements de l'époque, avec tous les détails vraiment les plus minutieux pour nous aider à rentrer un peu donc dans cette ambiance. Et puis ensuite il entrecoupe les scènes jouées par des interventions de ces spécialistes là si bien qu'à chaque fois on a un éclairage pour nous permettre de mieux comprendre, parce qu'évidemment il y a plein de sous-entendus et puis il y a des choses implicites qu'on ne pourrait pas deviner par nous-mêmes. Et alors donc ce va-et-vient entre le film et le commentaire, ça donne vraiment une profondeur au film, ça c'est vraiment indéniable.
Juste, peut-être pas un détail, mais les commentateurs sont des spécialistes certes, mais qui vivent en Occident. C'est un film qui était déjà en langue anglaise. Là, vous avez fait la démarche et merci pour l'ensemble des francophones qui puissent bénéficier de ce film. Donc en langue française, je veux dire, les commentaires sont faits par rapport à un contexte qui est plus occidental que... On parlait de modernité, on est en Europe, ils vivent pour certains aux États-Unis, donc ils sont au cœur même de... Je dis pas qu'ailleurs il n'y a pas de modernité, mais je veux dire, c'est pas le même contexte, on va pas rentrer dans le débat, mais tout le monde a compris ce que je veux dire. Il y a vraiment une orientation pour des spiritualités dans un monde... très moderne, si
exactement,
je puis dire.
Tout à fait, tout à fait. Disons que justement leur but, c'est d'aider donc un spectateur d'aujourd'hui à pouvoir comprendre tout ce qu'il ne comprendrait pas s'il était seul devant le film, ou même quand on est seul à lire les livres de Razali chez soi à la maison. Mm-hmm. Il y a beaucoup de sous-entendus, beaucoup de d'éléments qui nous échappent, parce que c'est, évidemment l'époque était tellement différente de la nôtre que sans cet éclairage ce serait difficile. Alors le but que se sont donné donc ces commentateurs, surtout Hamza Youssouf, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte de donner les clés de compréhension aux spectateurs d'aujourd'hui. Et en particulier donc avec le mode de vie qui est le nôtre, le rythme de vie qui est le nôtre aussi. Mmh.
Voilà. Et bon, pour revenir aussi aux ouvrages que vous avez traduits, je vais donner les références. Donc Abou Hamid Al-Razali, donc ça c'est l'auteur originel, mais vous avez fait la traduction, Tayeb Chouiref. Donc le livre de la patience d'une part, j'allais dire le livre de la science d'une part, puisque c'est le premier livre, et le livre de la patience le 32e, si je puis dire, des 40. Donc c'est aux éditions, je vois les éditions La Ruche.
C'est bien ça, voilà.
Voilà, donc ils sont disponibles aux éditions La Ruche. Voilà. Vous pouvez les trouver dans n'importe quel libraire.
Voilà.
Vous les commandez si le libraire ne l'a pas, il n'y a pas de souci, ils sont disponibles.
Exactement.
Par rapport à ce... Enfin, moi, l'idée que j'ai de Razali, c'est quand même quelque chose d'assez ardu en arabe. Peut-être, je ne maîtrise pas l'arabe, mais déjà, j'avais vu une traduction en française sur le livre sur l'amour. Je trouve assez costaud, si je puis dire.
Tout à fait.
Alors, pour quelqu'un qui veut essayer déjà de traduire et le transcrire en langue française, ça a été quelque chose de très difficile.
Alors, c'est surtout difficile de donner les clés de compréhension à notre lecteur. Si vous voulez, donc quand on traduit, bon, bah, on est plongé dans l'œuvre de Razali, on lit la phrase par exemple, on essaye de s'en imprégner et de la comprendre, et puis ensuite après il faut se dire maintenant comment mon lecteur à moi, donc qui a grandi en Occident, qui n'a pas forcément un bagage philosophique, théologique énorme, mm-hmm. comment je peux l'aider pour qu'il comprenne ce que moi je viens de comprendre maintenant.
D'accord.
Avec le fait que j'ai étudié Razali pendant 10 ans. Mmh. Mais je ne veux pas demander à mon lecteur d'étudier Razali pendant 10 ans. Donc en fait, il faut que je lui donne donc les clés qui vont avec. Et ça, c'est tout le rôle de l'annotation, les notes de bas de page. Mmh. Donc à chaque fois, vous avez donc des notes pour mettre en lumière, voilà, bah, il dit ça parce que il s'était passé ça et ça et ça avant. Mmh. Il dit ça parce qu'à l'époque, il y avait une polémique sur tel sujet. Hein, tout ça, ça permet, si vous voulez, de pouvoir suivre Razali dans ce qu'il veut nous dire. Alors Razali, il faut voir aussi qu'il écrit pour un public de lettrés. Que veut dire lettré ? Veut dire de gens qui connaissent le Coran et très souvent par cœur, tout mm-hmm. le Coran. De gens qui ont étudié le hadith depuis qu'ils sont petits. si bien qu'il ne va pas forcément toujours citer ses sources, toujours expliciter « je dis ça parce que je fais allusion à tel verset mm-hmm. ». Bon, il le dit en disant « les gens le savent ». Le mot « itminan » par exemple en arabe, « apaisement », pour quelqu'un qui a appris le Coran par cœur, tout de suite il va penser au verset « n'est-ce pas par l'invocation de Dieu que le cœur s'apaise ». Vous voyez, mm-hmm. le lecteur francophone, non. Il faut lui dire, il faut le mettre d'accord. en note en disant c'est une allusion à tel verset et on lui cite. Mm-hmm. Voilà. Donc vous voyez, il y a un gros travail d'annotation pour accompagner le lecteur pour qu'il puisse en fait comprendre. Et une des choses qui me gêne beaucoup dans certaines traductions qui paraissent aujourd'hui, c'est qu'on donne des traductions sèches, sans mm-hmm. annotation, sans introduction, mm-hmm. sans commentaire, même si c'est, parfois ça peut être bien traduit, hein, mm-hmm. mais s'il y a pas tous ces outils qui vont avec, que peut faire un jeune qui lit aujourd'hui à Razali ?
Justement, précède un petit peu dans la remarque que je voulais faire, c'est justement, on a tendance effectivement à traduire, j'allais pas dire de but en blanc, c'est pas aussi simple que ça, mais je veux dire, traduire des ouvrages, alors que peut-être que beaucoup attendent aussi peut-être des commentaires, à la rigueur, sans avoir forcément le détail. Le choix de traduire, même si c'est bien annoté, ça doit être suivi peut-être un ouvrage qui doit commenter l'ensemble de...
Je pense qu'il faut vraiment en fait faire ça en deux temps. D'abord donner le document, que les gens puissent l'avoir au moins, parce que s'ils lisent une étude sur Razali sans avoir rien lu de lui, je pense que ce ne sera pas la même chose. Par contre, s'ils ont eu accès au texte, même en traduction, et qu'ensuite après ils puissent lire une étude d'ensemble, eh bien je crois que vraiment là on aura permis aux gens de connaître l'œuvre, on aura vraiment permis aux gens de grandir dans la connaissance d'une œuvre.
Maintenant, j'aimerais bien pour reprendre tous les enseignements qui sont dictés par Shirona El-Razali, notre grand imam dont on a fait la présentation de sa biographie. Quelques éléments clés, même si on ne va pas trop s'attarder, mais pour terminer l'émission, justement, on a dit, lutter éventuellement contre des excès, dans un sens ou dans un autre. On a parlé des fanatismes de son époque, et je sais s'il y en a encore de notre époque. Et aussi le fait de résister à la pression, même s'il faut, on l'a bien dit, de faire déjà un premier effort à l'intérieur pour dire qu'il n'y a pas forcément le contexte extérieur qui suffit à expliquer la situation dans laquelle on est, mais n'empêche qu'il y a une résonance avec le monde extérieur, et parfois c'est très difficile. Donc des éléments clés qui permettent aux auditeurs déjà de premier, en attendant de s'acquérir des ouvrages et de visualiser la vidéo, de pouvoir commencer une démarche qui puisse aller dans le bon sens pour s'approcher d'un.
Bien sûr. Alors, j'ai précisément sur ce sujet, j'ai écrit un article qui est paru sur le site umma.com et qui est repris aussi sur le site tesnim.fr. Nos éditeurs pourront donc les consulter. Un article donc qui s'intitule Universalité et actualité des grands porte-paroles de la sagesse en islam. Et dedans, donc, je montre comment, en fait, une œuvre qui a été écrite, effectivement, il y a plusieurs siècles, presque 1000 ans pour Razali, eh bien, comment elle peut nous parler à nous aujourd'hui et nous enseigner et nous permettre, non pas de copier à la lettre ce qui a été dit par Razali, ce qui n'aurait pas de sens, mais de s'inspirer de ce que lui a écrit et de ce qu'il a vécu pour pouvoir vivre notre propre spiritualité. Qui sera forcément un peu différente dans la forme extérieure. Alors, effectivement, il y a la lutte contre les fanatismes, il y a aussi ce que Razali appelle le juridisme stérile, le fait de pinailler sur des détails du fiqh. C'était très présent à son époque. Et puis on retrouve aussi aujourd'hui parfois donc des polémiques sur le fait que les cheveux en quatre, etc., et de multiplier les fatwas, d'aller chercher des fatwas du bout du monde. Voyez un petit peu cette... Alors le juridisme stérile, c'est quelque chose contre lequel Razali a beaucoup lutté et contre lequel il a donné des clés aussi. Razali explique que quand quelqu'un ne connaît pas suffisamment bien l'islam et qu'il a envie de bien faire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, comme il ne connaît pas bien l'islam, eh bien, il va demander, est-ce que là je fais bien? Est-ce que ceci est bien fait? Est-ce que ceci est bien fait? Et puis, selon les gens qui vont lui répondre, il peut tomber ou pas dans ce juridisme stérile. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui ne connaît pas suffisamment bien l'islam, eh bien, il va avoir recours, disons, au ulama. Et s'il tombe sur ce que Razali appelle ulama as-su, donc des savants sans piété, ils vont l'enfermer dans un carcan et il va se couper réellement de la spiritualité et s'enfermer dans des batailles de halal haram. Donc Razali dit, pour éviter ce piège, il faut donc apprendre son fard, pratiquer son fard et les sunnas les plus importants, sunnas muakkada, et puis s'en tenir là, et tout de suite il faut travailler sur le comportement, parce que une des choses que rappelle Razali, c'est que le prophète a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements, ce qui veut dire que le comportement et le caractère, la beauté du caractère, c'est vraiment essentiel, c'est central dans la foi. Je veux dire, on ne peut pas avoir de lien à Dieu sans beauté du caractère et sans pureté du caractère. Donc, quand on connaît son fard, eh bien, il faut se mettre ensuite à cette purification intérieure. Et quand on fait comme ça, eh bien, Razali dit, Dieu nous donne une guidée, une lumière, qui fait que, finalement, on n'est pas tenté d'aller chercher des fatwas et des réponses et de tomber dans le pinaillage du halal Haram. Mm-hmm. Voilà. Donc ça, je crois qu'aujourd'hui aussi, beaucoup de nos contemporains en ont besoin. Parce qu'ils veulent bien faire souvent. Hein, ils essayent d'être le plus dans la norme, mm-hmm. si vous voulez, de la charia possible. Ça, c'est une bonne intention. Mais ils ne se rendent pas compte que tout excès est mauvais et que c'est la voie du juste milieu mm-hmm. qui est prônée par le prophète.
Mm-hmm. Donc, on va 21h53 et on va passer le relais à l'émission qui suit. On pourra en parler de très longues heures. Hein, je veux dire, ce sera peut-être l'occasion aussi de revenir, Inch'Allah, d'approfondir tel ou tel thème, notamment par exemple un thème sur la patience ou sur la science ou d'autres thèmes qui ont été approfondis. Mais en tout cas, on encourage tous les auditeurs et les auditrices à découvrir ou redécouvrir ce grand personnage Al-Razali, donc déjà à travers diffusion et la diffusion d'un film film documentaire, enfin je sais pas comment je pourrais dire, d'un film tout court
voilà.
Film donc ce sera déjà le mardi 19 à 20h30 Kino Ciné à Lille 3 Pont de Bois, donc petite participation de 5€ symbolique sera demandée, suivi bien sûr d'un débat, donc c'est patronné par l'association Tesnimali, sera l'occasion aussi de découvrir cette association qui travaille sur la métropole et ailleurs. Tasnim qui donc pour vocation de diffuser sur le thème de la spiritualité du monde général. Vous avez un site www.tasnim.fr où vous pouvez éventuellement, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, se procurer le DVD, le commander en attendant qu'il soit diffusé dans toutes les librairies du coin et d'ailleurs. Et aussi les deux ouvrages sur quelques chapitres du grand ouvrage de revivification des sciences de la religion par l'imam Abou Hamid Al-Razali, donc une traduction de Taïeb Chouref. Le livre de la science d'une part et le livre de la patience d'autre part, aux éditions La Ruche. Pour les 5 dernières minutes, peut-être un mot de la fin, si vous avez peut-être quelque chose à rajouter ou quelque chose qui m'aurait échappé, pas spécialement. Oui.
Moi j'aurais peut-être juste voulu remercier Ovidio Salazar en fait, parce qu'on a beaucoup parlé de son film.
Oui.
Il n'est pas là pour nous écouter et pour témoigner, et aussi rappeler qu'il a aussi réalisé d'autres films.
Oui, il y avait un documentaire sur le Hajj, non, voilà. Si je me rappelle.
Donc il a réalisé un documentaire sur le Hajj où il a filmé 3 personnes pendant tout leur Hajj, un très beau film.
Oui, oui, il a été diffusé récemment.
Diffusé, oui, sur des chaînes câblées, je crois. Mm-hmm. Et également, il a réalisé un petit film documentaire sur Al-Quds, donc sur Masjid Al-Aqsa. Et donc à Jérusalem, et aussi dernière chose concernant la vidéo, en fait faire connaître son film et diffuser le DVD, c'est aussi on veut l'encourager parce qu'il a déjà en tête d'autres très beaux films.
D'accord.
Sur d'autres personnages mm-hmm. De la même stature que Al-Razali.
D'accord. Voilà. Oui, donc justement, on s'est attardé essentiellement sur Razali, mais il y a aussi d'autres illustres personnages, et ce sera l'occasion de d'autres émissions de consacrer pour éventuellement d'autres personnages. En tout cas, on vous remercie pour être venu nous refaire découvrir cet illustre savant, Al-Razali. Faisal, on va rendre l'antenne. Je rappelle la dernière information. Juste la diffusion donc du film Al-Razali mardi 19 juin à 20h30 au Kino Ciné de Lille 3, c'est l'université Lille 3 à Pont-de-Bois. 5€ symbolique de participation suivi d'un débat, donc venez nombreuses et nombreux enrichir vos connaissances sur ce personnage et en apprendre davantage, en attendant d'acheter les deux ouvrages, donc le livre de la patience, le livre de la science, ou le livre de la science, le livre de la patience, bon, les deux. Comme ça, vous êtes sûr de pas traduit par Taïeb Chouref aux éditions La Ruche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à partir de 20h. Restez à l'antenne. Vous avez l'émission Safina proposée par JMF Tourcoing sur la culture du chant religieux. Donc, ils seront avec vous jusqu'à 23h. On vous remercie encore une fois et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.